Et écoutez, on va aller rejoindre l'ancien policier Denis Côté. J'ai fait une entrevue avec Denis ici il y a quelques semaines. On a fait la dernière demi-heure. Il vient de prendre sa retraite. Denis Côté est un policier très, très estimé dans les rangs de la police de Montréal. Et là, je voulais l'entendre sur un scoop de Marie-Laurence Delaney chez Paul Arcand ce matin. La ville de Montréal qui recule dans sa décision de munir tous ses patrouilleurs en duo de pistolets à impulsion électrique, ce qu'on appelle les tasers. Okay? Ça devait arriver l'an prochain. Et c'était une ambition de la ville de Montréal et du SPVM dans la foulée de l'enquête du coroner sur la mort d'Alain Magloire, cet homme troublé qui était en crise à Montréal quand il a été abattu par la police en 2014. Donc, Denis a des opinions là-dessus. Salut Denis Côté.
Bon samedi, Monsieur Lagacé.
Oui, à la retraite, tous les jours sont des samedis, n'est-ce pas?
Exactement.
OK, parfait. Mais pour situer les gens, on est bel et bien jeudi. OK, plus sérieusement, Denis, on en a déjà parlé, toi et moi, le fait que les policiers à Montréal n'ont pas forcément tous des tasers. Il y a un taser par poste de police. Et là, il devait avoir une nouvelle mesure. Là. Chaque équipe de patrouilleurs devait avoir, d'ici 2020, un taser à sa disposition. La ville a reculé. Pourquoi tu penses que c'est pas une bonne décision?
Ben, c'est encore... Tu sais, lors du dernier entrevue, c'est ce qu'on se disait. Hein? Tu m'avais posé la question, qu'est-ce qui me dérangeait le plus, qu'est-ce qui m'avait le plus dérangé dans ma carrière, là, qui m'irritait le plus. Je t'avais dit, c'est toujours l'incidence politique sur le travail des patrouilleurs. Mm. Ben ça, c'en est une très belle exemple. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tu sais, l'affaire Magloire, ça a pris quoi, 2 ans avant que tout soit terminé, que le coroner ait fait l'étude, une étude très exhaustive, avec des spécialistes en emploi de la force qui sont venus témoigner de l'importance de cet instrument de travail-là. Puis là, soudainement, t'as des gens qui... Bon, moi, personnellement, j'appelle ça des poussées de crayon, là. Mais t'as des gens qui sont assis derrière des bureaux qui, eux, décident, on sait pas exactement pourquoi, que là, non, le taser, ça n'a plus sa place. C'est comme de dire à leur spécialiste en emploi de la force, vous autres, vous connaissez pas ça. Nous, on est une administration, on est des politiciens, et nous, on sait de quoi on parle. Mmh. Moi, je trouve que c'est totalement aberrant. C'est un manque de confiance envers les gens de l'emploi de la force, ceux qui étudient, qui travaillent dans ce milieu-là. C'est un manque de confiance en son propre directeur qui, lui, travaille dans un milieu spécialisé. C'est un peu comme si je me bâtis une maison neuve, je fais venir un électricien, mais je vais lui dire comment faire sa job puis quoi faire exactement. Tu sais, ça n'a aucun rapport, la politique, avec l'emploi de la force ou les méthodes que les policiers doivent employer pour gérer les crises dans le milieu urbain. J'allais dire urbain, mais dans le fond, c'est partout.
Oui, oui. OK, Denis, on va décortiquer un peu. Okay? Tu as été policier pendant 30 ans. Et explique-nous d'abord, là, c'est quoi le spectre de l'emploi de la force? Okay?
Ben, le spectre de l'emploi de la force, c'est quand un policier, dans le fond, il y a une formation qui est longue et continue chez le policier, mais c'est toujours de voir face à une situation quel va être le degré de force que le policier va devoir employer et, entre parenthèses, les outils qu'il va devoir nécessairement employer. Fait qu'on passe, tu sais, on parle du poivre de Cayenne, on parle du bâton télescopique, on parle d'un arme intermédiaire qui est devenue le taser, qui, lui, se situe entre les autres armes, si vous voulez, puis l'arme létale, ce qu'on appelle notre arme de service. Oui. Fait que, puis ça, souvent, cette arme-là est déployée dans des mesures préventives parce que ça, c'est dissuasif. Il y a tout un processus autour de l'emploi de cette arme-là.
Si je comprends bien.
Mais ça évite d'aller à l'arme létale.
C'est ça, Denis, c'est une dernière étape avant de sortir ton gun.
Mais tout à fait.
Et ça, on veut pas.
Tu peux même pas t'en servir de tout ça. Faut que tu passes au gun directement.
Oui. Mais les policiers estiment que s'ils ont accès à un taser et que la situation devient de plus en plus tendue, la personne écoute de moins en moins, au lieu de sortir ton arme, par exemple, si la personne a un couteau, tu peux peut-être essayer de la neutraliser avec un taser. Tu vas y faire mal, mais tu vas pas la tuer.
Entre autres, mais aussi ce que les gens voient pas, c'est qu'on fait souvent face à on va appeler ça des suspects ou des contrevenants qui sont complètement, sont plus là, sont déconnectés de la réalité. Ces gens-là, là, t'as beau avoir un background, parce que je lisais un petit peu là-dessus, ils disaient que oui, on va former les policiers en désescalade. Hey, sais-tu qu'un beau mot, ça? Désescalade. Quand tu fais face à une personne qui est complètement déconnectée, elle t'entend pas. Fait que peu importe qu'est-ce que tu peux dire, même si t'es un psychologue d'une troisième génération, génération avancée, il n'y a rien à en cirer. Il faut que tu maîtrises la situation et de là l'emploi de certains outils. Mais si tu veux pas, si tu fais face à une personne qui est armée, ben c'est malheureux, mais ça risque d'aller à l'arme létale pour protéger les gens qui nous entourent ou même le policier. À défaut d'avoir une arme intermédiaire, puis je souligne que l'arme intermédiaire ne fonctionne pas toujours. Mais c'est, tu sais, tu regardes, le SPVM est déjà 15 ans en retard sur le déploiement des tasers, puis là, on vient dire, on arrête ça, c'est tout à fait aberrant, puis ça vient de politiciens qui ont probablement jamais eu à faire face à gérer la violence qui est quotidienne dans nos rues. C'est d'une aberrance totale.
Parce que, Denis, il faut préciser que c'est à la suite de discussions entre le SPVM et la Ville qu'on a décidé de stopper ce projet-là, de doter toutes les équipes de patrouilleurs de taser.
Donc, toi, quelle est-ce que tu... belle blague! Ça veut dire quoi, autrement dit, Pat? Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent mettre les budgets ailleurs. C'est une question de budget, parce que là, j'ai pas, en tout cas, à moins que je me trompe, j'ai pas vu d'événements qui controversaient récemment qui venaient mettre en doute l'utilisation du taser. Partout en Amérique, c'est déployé, puis là, on parle pas d'un taser par duo. Tu vas aux États-Unis, chaque patrouilleur a un taser. C'est comme de dire, je t'enlève tes menottes. Voyons, c'est ridicule. C'est totalement ridicule.
Mais Denis, toi, écoute, on a parlé de ça, je pense, il y a 6 ans, avant même l'affaire Magloire, l'affaire tragique d'Alain Magloire. On en avait parlé. Les policiers, dans leurs autos présentement, les gars et les filles du SPVM, ça fait longtemps qu'ils demandent cette arme intermédiaire qui est le taser.
Mais c'est sûr, Pat, c'est comme je te disais, on est en retard d'à peu près 15 ans, mais ça a toujours été, là. Mais t'es en retard d'à peu près 15 ans, fait que c'est sûr que les patrouilleurs le demandent comme outil. Ils voient partout dans les corps de police en Amérique, puis ça, je dis juste en Amérique parce que c'est plus étendu, qui ont cet outil de travail-là. Puis là, toi, tu travailles à Montréal, une métropole où tu gères à peu près 50% de la violence du Québec, mais t'as pas l'outil parce que t'as un politicien qui, lui, est pas certain de l'efficacité ou du besoin de cette arme-là.
Alors que c'est pas leur job.
Il n'y en a aucune connaissance.
Alors que c'est pas leur job.
Ben, c'est pas leur job pantoute. Moi, ils savent même pas c'est quoi gérer une personne en situation de crise. Puis là, ils parlent, comme je te disais tantôt, de désescalade. Désescalade, ça va bien quand la personne est en contact avec le policier qui fait face. Mais quand tu fais face à la santé mentale d'une personne qui est complètement déconnectée ou droguée, il n'y en a pas de désescalade.
Mais Denis,
on passe à l'action avec des outils.
Denis,
tu vois des outils.
Tu as été patrouilleur au centre-ville de Montréal pendant 30 ans. Raconte-moi la différence, disons, entre quand tu as commencé et à la fin, quand on parle d'intervenir auprès de gens qui ont des problèmes clairs de santé mentale.
Bien, regarde, c'est sûr, comme je disais tantôt, qu'il y a de la formation, il y a de l'évolution. Quand j'ai commencé dans le domaine, en fait, ça fait 34 ans, évidemment, on n'avait pas ces formations ou cette sensibilisation-là face à la diversité des problèmes mentaux. On était moins, si tu veux, ou effectivement, on était comme moins connaissants. Fait que oui, il y a une progression au cours de mes années. Tu sais, on a eu de la formation continue, puis on s'est ajusté à ça. Puis, tu sais, je dénigre pas non plus le fait que, oui, il y a un besoin de formation. Ça va toujours être, puis dans tous les milieux. Fait que ça, j'acquiesce à ça. Mais ce que les gens comprennent, ben pas les gens, mais certaines personnes ne comprennent pas, c'est qu'il vient un temps où il faut que tu agisses. Puis les belles illustrations psychologiques, là, puis de regarde, les thèses là, philosophiques ne fonctionnent pas. Tu fais face à la violence, tu as des décisions à prendre dans un court laps de temps. On critique toujours le policier après son intervention, puis là, on y enlève des outils pour le faire. Fait que dans l'affaire Magloire, par exemple, ça a pris à peu près 2 ans avant que le coroner puisse étudier la situation au complet. Mais il y a des policiers qui ont intervenu. Moi, j'en ai fait partie. Mais pendant 2 ans, ces policiers-là, tu sais, ils vivaient un certain stress parce qu'ils se demandaient, ben comment ça va finir? Est-ce que ces gens-là vont juger qu'on a trop employé de force, puis que là, je vais finir avec des accusations criminelles, puis ça va... Tu sais, c'est d'une aberrance totale, alors que tous ces discours-là, puis ces études-là ont été faites partout en Amérique, puis ont convenu que ça prenait une arme intermédiaire.
Toi, ce que tu dis, c'est que le taser, c'est au moins une étape de plus avant de sortir ton gun, et quand tu sors ton gun, ben là, ça va très mal finir.
Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas l'utiliser, le taser, parce qu'il y a un contexte d'utilisation, puis c'est assez complexe, le taser, puis c'est pas une baguette magique, ça fonctionne pas toujours, là. Mais oui, c'est une alternative, une proposition que tu peux avoir pour t'éviter de tomber à l'arme létale. Mais tu sais, t'enlèves pas la drill électrique à un... à un gars qui travaille sur la construction, tu sais, puis tu viens pas lui dire comment faire son travail.
Toi, c'est ça qui
t'insulte. Tu es assis derrière un bureau.
C'est ça qui t'insulte, là.
Ça a été de même toute ma carrière, Pat. Toute ma carrière, c'était de même des décisions de politique de gens qui ne font pas face à la situation, qui décident qu'ils s'en font des spécialistes, qui en deviennent des spécialistes, puis que là, ils prennent des décisions. Ben, toi, t'es une police, ben. Non, ça, c'est pas une arme que tu devrais utiliser parce que moi, je pense, en arrière de mon bureau, que t'en as pas vraiment besoin ou que ça représente un risque. Ben oui, c'est sûr que ça représente un risque. Mais si je tire la personne qui est devant moi, là, le risque est encore plus grand.
Denis,
fait que, Denis, c'est une logique, là.
Toi, t'es à la retraite. T'as été policier à Montréal pendant 30 ans et quelques, là. Penses-tu que l'opinion que tu viens de nous donner, là, c'est l'opinion des gars et des filles qui sont assis dans leur auto-patrouille présentement?
Ben, Pat, moi, je me bidonne parce que j'entends... Je suis certain, là, dans ma petite tête, là, j'entends plein de gens rire. Ils patrouillent, puis s'il y a des policiers qui m'écoutent, là, je suis à peu près certain qu'ils doivent se dire, bon, enfin, quelqu'un qui peut parler en notre nom, puis qui n'est pas menotté par les relations publiques. C'est ça que je trouve merveilleux de la retraite, c'est que là, tu sais, tu me connais, on va dire ça des termes un peu crus, mais j'ai une grande gueule, puis le SPVM a souvent voulu la contenir un peu, puis maintenant, c'est drôle, il n'y a plus personne pour me la contenir, fait que j'en profite, tu sais, je vais dire ce que les patrouilleurs pensent honnêtement, dans le cadre de leur travail quotidien. La violence, le Pat, là, c'est tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. C'est de tous les jours avec des personnes en difficulté, en détresse mentale, avec les toxicomanes qui voient plus clair devant eux. Mais les policiers doivent y faire face puis intervenir. Mais ça prend des outils. On en est là. On est en 2019. Ça prend des outils.
Parfait. Merci beaucoup, Denis.
J'ai pas été trop impulsif.
Non. Je te souhaite un bon samedi.
OK, bien merci, je vais poursuivre.
Salut, Denis. Denis Côté, qui est un ancien policier à la ville de Montréal, la police de Montréal a choisi d'être patrouilleur pendant toute sa carrière, a pris sa retraite tout à fait récemment. Et pour vous situer, Denis Côté et ce policier qui avait tiré sur l'homme qui était entré avec une arme à Dawson. Donc, vous l'avez entendu, il n'a pas perdu son franc-parler avec la retraite. À venir! Un duo de sport, Martin McGuire et Philippe Quentin, en ce jour de premier match de la saison locale du Canadien.